écoutez RFI, il est 2h à Paris, minuit en temps universel.
Arthur Ponchelet.
À la une, Viktor Orban en Ukraine. Le premier ministre hongrois proche du Kremlin était en visite à Kiev ce mardi. Il a appelé à un cessez-le-feu pour accélérer les négociations de paix. Volodymyr Zelensky a lui plaidé pour le maintien du soutien européen à l'Ukraine. En France, on connaît les candidats au second tour des élections législatives. Plus de 200 désistements pour faire barrage au Rassemblement national. Dans un instant, on fait le point sur les programmes des partis en matière d'immigration. Dans ce journal également, nous irons au Pakistan où une vague de chaleur fait rage depuis plus d'une semaine. Et puis, direction le Panama, le pays a passé un accord avec le gouvernement américain pour fermer un passage emprunté par les migrants. Il est l'un des dirigeants européens les plus proches du Kremlin. Viktor Orban était à Kiev ce mardi. Le premier ministre hongrois, dont le pays vient de prendre la présidence tournante de l'UE, a appelé l'Ukraine à un cessez-le-feu à rebours des positions européennes. Une trêve dans les combats qui serait limitée dans le temps et permettrait d'accélérer les négociations de paix, selon lui. Pas de réaction directe de Volodymyr Zelensky à cette proposition. Le président ukrainien a préféré plaider une nouvelle fois pour le maintien du soutien européen à Kiev. Écoutez.
Je suis reconnaissant à la Hongrie pour le soutien apporté à notre peuple et pour l'aide humanitaire apportée à l'Ukraine. Toute manifestation de protection de la vie est très importante pour nous. La Hongrie a participé au premier sommet de la paix et a soutenu le communiqué du sommet, ce qui montre qu'elle est prête à contribuer efficacement au rétablissement d'une véritable sécurité à long terme. Nous apprécions que votre visite ait lieu juste après le début de la présidence hongroise de l'Union européenne. C'est une indication claire de nos priorités européennes communes, de l'importance d'apporter une paix juste à l'Ukraine et à l'ensemble de l'Europe, et de l'importance de résoudre les difficultés existantes et de fournir de nouvelles fondations pour une Europe plus forte pour la croissance économique et sociale. Il est également très important pour nous tous en Europe que le soutien de l'Europe à l'Ukraine reste à un niveau suffisant, y compris notre défense contre la terreur russe.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Notez également la réponse du département américain d'État ce mardi. La seule solution est que la Russie quitte tout simplement le territoire ukrainien. La guerre se poursuit aussi à Gaza. Avec ce chiffre, près de 2 millions de Gazaouis ont été déplacés depuis le début de la guerre. Selon l'ONU, cela représente 80% de la population de l'enclave. La coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le territoire évoque une abîme de souffrance pour les civils sur place. Ce mardi, Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou se sont parlé. Le président français a appelé le premier ministre israélien à ne pas engager de nouvelles opérations près de Khan Younes et de Rafah. En France, on connaît les candidats pour le second tour des élections législatives. Avec plus de 200 désistements de candidats de gauche et du parti présidentiel pour faire barrage au Rassemblement national, ce matin, on se penche sur les programmes des trois grands blocs politiques qui s'affronteront dimanche dans les urnes. Selon un sondage Ipsos du mois de juin sur les préoccupations des Français, l'inflation arrive en tête, suivie de la sécurité et des flux migratoires, un thème historique pour le Rassemblement national. Mais Marie Cazadebé, il y a un grand écart entre les propositions du parti d'extrême droite et celles du nouveau Front populaire.
Quand la lutte contre l'immigration est une urgence pour le parti de Jordan Bardella, la question arrive à la 24e page du programme du nouveau Front populaire et s'intitule « Garantir un accueil digne ». Pour la majorité présidentielle, il s'agit plutôt de s'appuyer sur un bilan, 12 000 expulsions depuis 2017, et de promettre une forme de continuité après l'adoption de la loi Asile-Immigration de janvier dernier. L'une des plus restrictives de la 5e République, mais pas assez encore pour le Rassemblement national, qui compte aller plus loin en supprimant le droit du sol et l'aide médicale d'État, ou encore en suspendant toutes les régularisations de clandestins par les préfets. Et après l'urgence, viendra le temps de la réforme et de la fameuse préférence nationale. À gauche de l'échiquier politique, le nouveau Front populaire compte au contraire abroger la loi de janvier pour faciliter l'accès aux visas, la régularisation des travailleurs, des étudiants ou encore celle des parents d'enfants scolarisés. Le NFP mise surtout sur l'intégration, en permettant par exemple aux demandeurs d'asile d'avoir un emploi.
De l'autre côté de l'Atlantique. La campagne pour les présidentielles américaines se poursuit également. Et Joe Biden tente encore de rassurer sur son état de santé. Le président américain met son débat raté face à Donald Trump sur le compte de la fatigue liée à ses déplacements internationaux. « Je n'ai pas écouté mes conseillers et je me suis presque endormi sur la scène », a-t-il expliqué. Sa vice-présidente Kamala Harris se dit-elle fière d'être la colistière de Biden. Nouveau signal envoyé au camp démocrate que le président sortant ne compte pas se retirer de la course à la Maison-Blanche. Une nouvelle vague de chaleur s'abat depuis plus d'une semaine sur le Pakistan. Karachi, la grande ville portuaire et capitale économique du pays, est particulièrement touchée. Le thermomètre affiche près de 40 degrés Celsius. Mais en raison d'un fort taux d'humidité, la température ressentie avoisine les 55 degrés. Selon la fondation EDI, principale ONG caritative du Pakistan, la chaleur fait de nombreuses victimes. Les hôpitaux sont débordés et les morgues pleines. Zora Yousouf, présidente de la Commission des droits de l'homme au Pakistan, dénonce les coupures de courant qui touchent avant tout les quartiers pauvres de Karachi et qui aggravent la crise. Écoutez.
De nombreux quartiers subissent des coupures de courant quotidiennes qui durent 12 à 14 heures, voire plus. Cela concerne exclusivement les quartiers pauvres et ceux de la classe moyenne. Leurs habitants manifestent d'ailleurs tous les jours. Certes, il y a un problème de pénurie d'électricité, mais à Karachi, la compagnie d'électricité continue de fournir le courant aux quartiers qui payent régulièrement leurs factures. En revanche, dans les quartiers pauvres, où certains clients ont du retard dans leur paiement, la compagnie procède à une sorte de punition collective. Elle coupe le courant dans des quartiers entiers, pas seulement pour les foyers qui ne payent pas leurs factures. La conséquence, c'est que les habitants de ces quartiers n'ont plus aucun répit face aux températures extrêmes. Et cela contribue au nombre très élevé de décès dus à cette vague de chaleur.
Zora Yousouf, présidente de la Commission des droits de l'homme au Pakistan. Ça va se faire très vite. Le nouveau Premier ministre haïtien Garry Conille s'attend à l'arrivée d'un deuxième contingent de la force multinationale d'appui à la police dans les prochaines semaines. Pas de précision en revanche sur le nombre d'hommes attendus. Un premier contingent kényan est arrivé en Haïti la semaine dernière pour aider le pays à faire face à la violence des gangs. L'ouragan Beryl a fait au moins 4 morts dans les îles Grenadines aux Antilles. Classé catégorie 5, la plus élevée, il charrie des vents à plus de 250 km/h. Beryl se dirige désormais vers la Jamaïque, mais devrait perdre en intensité. Au Panama, à peine investi, le nouveau président, José Raúl Mulinho, a annoncé dans son premier discours sa volonté de ne plus faire de son pays une zone de transit. Au cœur des discussions, la jungle du Darién, qui fait frontière entre la Colombie et le Panama, passage emprunté par des milliers de migrants chaque année sous la menace de bandes criminelles pour tenter de rejoindre les États-Unis. Le nouveau président panaméen, qui a été installé dans ses fonctions ce lundi, s'est donc mis d'accord avec le gouvernement américain, Marine Le Pen.
Argent contre rapatriement. Cet accord prévoit que les immigrés arrivés clandestinement au Panama par la jungle du Darién soient placés dans un avion direction leur pays d'origine. Des Vénézuéliens, Équatoriens, Colombiens ou Chinois rapatriés aux frais de Washington. Les États-Unis s'engagent à payer et s'évitent ainsi l'accueil de tous ceux qui espèrent rejoindre leur territoire. Un accord qui permet à José Raúl Mulinho de répondre à une promesse de campagne, comme il l'a réitéré hier dans son discours d'investiture.
Je ne permettrai pas que le Panama soit une voie ouverte pour des milliers de personnes qui entrent illégalement dans notre pays avec le soutien de toute une organisation internationale liée au trafic de drogue et au trafic d'êtres humains.
Le nouveau président panaméen qui promet de fermer le passage du Darién. Mais comment clôturer 260 km de jungle inhospitalière ? José Raúl Mulinho ne l'a pas précisé. L'an dernier, 500 000 de migrants, hommes, femmes et enfants, ont risqué leur vie dans cette traversée du Darién. Et ils sont déjà près de 200 000 depuis le début de cette année.
Un mot de l'Euro de football avant de refermer ce journal. La Turquie a battu l'Autriche tout à l'heure 2-1. La Turquie qui affrontera les Pays-Bas en quart de finale. Un peu plus tôt, les Néerlandais se sont débarrassés de la Roumanie sans difficulté, 3-0. Direction donc les quarts de finale pour les Pays-Bas. Et ce sera la première fois d'ailleurs depuis 2008. Il est 2h passées de 10 minutes ici à Paris. C'est la fin de ce journal. Tout de suite sur RFI, vous avez rendez-vous avec Couleur Tropicale.